Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous le savez, je commence toujours mon émission avec un éditorial et aujourd'hui, la question s'impose. J'ai le plus grand respect pour les groupes autochtones qui revendiquent le droit de respecter, hein, qu'on respecte la variété, la diversité et la richesse des langues autochtones. Par contre, j'ai un malaise quand, face à la réforme de la loi 101, ces mêmes groupes autochtones crient au génocide culturel, rien de moins, un génocide culturel, parce que la loi prévoit qu'il y ait des cours qui soient donnés en français dans les cégeps anglophones. J'aimerais quand même rappeler à tout le monde, le français est la langue officielle au Québec, et quand des groupes autochtones se plaignent du colonialisme, je vois pas en quoi l'anglais est moins une langue coloniale que le français. On a quand même besoin d'un minimum de connaître le français pour évoluer au Québec, et c'est un minimum, me semble-t-il, d'exiger que dans les cégeps anglophones, les élèves, qu'ils soient allophones, autochtones ou anglophones, aient une connaissance minimale du français, ne serait-ce que pour aller au dépanneur puis s'acheter un paquet de chips. Venez pas me dire que c'est un génocide culturel que d'exiger que, quand on vit ensemble, le vivre ensemble, que ça se passe en français. Quand j'ai vu ce terme-là, selon moi, complètement galvaudé de génocide culturel, j'ai poussé un découragé. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Alors, vous avez vu dans les journaux ce matin, Journal de Montréal, Journal de Québec, un chiffre quand même assez choc. Selon les projections, 35 000 personnes devraient franchir la frontière illégalement par le chemin Roxham en 2022. Vraiment un chiffre record, une année record. Du côté du Parti québécois, on dit la solution est assez simple. Fermons tout simplement le chemin Roxham. On va parler de tout ça avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre Plamondon.
Bonjour.
Écoutez, ce fameux chemin Roxham vraiment nous donne du fil à retordre. Quand vous avez pris connaissance de ce chiffre-là, 35 000 personnes, si on fait une projection sur l'année, comment vous avez réagi d'abord?
Ben, ça fait des années, ça fait 5-6 ans que le Parti québécois dit qu'il faut fermer le chemin Roxham, il faut suspendre, tasser l'entente des tiers pays sûrs qui est à l'origine de ces entrées illégales. 95% des entrées illégales au Canada ont lieu à travers le chemin Roxham. Ça met une pression très grande à tous les niveaux sur le Québec. Et constatons qu'on est capable de fermer le chemin Roxham parce que c'est précisément ce qu'on a fait durant la pandémie. Et aussitôt la pandémie relativement terminée, le gouvernement fédéral s'est empressé de réouvrir cette façon de procéder qui est complètement chaotique.
Bon, alors le chiffre que vous venez de donner est extrêmement important, très important, 95% des gens donc qui passent, qui rentrent illégalement au pays le font par chez nous. Pourquoi le gouvernement fédéral, dans sa très grande générosité, ne distribue pas ces migrants-là un petit peu partout à travers le pays? Pourquoi il n'y a pas des autocars qui partent du chemin Roxham pour en amener quelques-uns en Ontario ou même en Alberta, au Manitoba, en Colombie-Britannique, dans les provinces maritimes? Pourquoi il n'y a pas... comment vous interprétez ça, le fait que il n'y a aucun effort qui est fait pour distribuer les migrants à travers le pays?
La question est excellente. Donc, première question, pourquoi avoir réouvert le chemin puisqu'il était fermé et il n'y avait pas d'enjeu? Une fois qu'on l'a ouvert, pourquoi seulement au Québec? Pourquoi aucune volonté de rendre plus ordonnés les processus de demande d'asile en disant il y a plusieurs points frontaliers où vous pouvez déposer votre demande au lieu de passer à travers une forêt à un seul endroit au Québec? Toutes ces questions-là sont légitimes. Ça fait cinq ans que nous, on demande de fermer. Ça fait cinq ans qu'on rappelle que si on est indépendant, on n'aurait pas besoin de supplier Justin Trudeau. Et là, ça fait 4 ans que la CAQ est au pouvoir et on pose la question, où est la CAQ? Quel geste concret? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui a été fait par la CAQ? Ce matin, on apprend qu'en fait, la CAQ, peu importe ce qu'elle va nous dire aujourd'hui, là, parce qu'ils sont très, très spécialistes là, dans les effets de toge là, puis les déclarations pour mousser leur propre image, mais on apprend ce matin qu'en fait, ils viennent de s'entendre sur un bail de 10 ans, 50 millions de dollars.
Alors ça, c'est hallucinant.
Ben oui, ça veut dire que c'est de l'hypocrisie pure. Politiquement, voilà. La CAQ va nous dire c'est inacceptable, il faut fermer Roxane. En même temps, ils sont en train de planifier pour 10 ans d'opérations de ces entrées illégales. Donc, oui. C'est malhonnête.
Alors, c'est important de le mentionner. Il faut rendre le crédit où il revient. Ce sont nos collègues de Radio-Canada qui ont sorti ces chiffres-là. Donc, Québec qui dépense 50 millions pour loger les demandeurs d'asile qui passent par Roxham. Un contrat, donc, signé fin du mois d'avril avec une firme privée qui se spécialise dans le développement immobilier. Donc, un gouvernement qui a l'intention de juguler l'immigration illégale ne fait pas des contrats sur 10 ans pour accueillir. Et je m'excuse de dire ça comme ça, Monsieur Saint-Pierre, parle-moi-en, mais 50 millions de dollars, imaginons ce que cet argent-là aurait pu faire s'il était utilisé à d'autres fins que de donner des logements à des gens qui rentrent ici illégalement.
Mais c'est surtout que c'est sur 10 ans. C'est comme
c'est
si la CAQ, peu importe ce qu'elle nous dit, son intention réelle, là, c'est qu'elle a complètement abdiqué, elle s'est complètement couchée devant le fédéral et elle se dit « Moi, j'en ai pour 10 ans minimum de planification du chemin de Roxham. »
Okay.
C'est très similaire à ce que la CAQ fait dans plein d'autres dossiers où il y a un monde de différence entre leur discours et les décisions qu'ils prennent. Parce que, rappelons-le, c'est un gouvernement fédéraliste qui préfère mettre sous le tapis tous leurs échecs avec le Canada pour ne pas nuire à leur doctrine fédéraliste qui est, de mon point de vue, une fraude intellectuelle.
Bon, donc on connaît votre opinion sur le dossier. Donc, vous souhaiteriez qu'on ferme carrément le chemin Roxham. Concrètement, mettons que demain matin, là, on ferme le chemin Roxham. Vous pensez pas que les gens qui veulent absolument rentrer ici vont trouver un autre point d'entrée? Est-ce que c'est pas une solution un peu simpliste à un problème qui est complexe?
En fait, nous, ça fait 5 ans qu'on dit « Fermer le chemin Roxham, c'est modifier l'entente des tiers pays sûrs. » Ça va ensemble.
D'accord.
Donc, non, c'est pas une solution simpliste. C'est tout simplement de dire « On ne fonctionnera plus par des entrées illégales à travers une forêt. » Voici une dizaine de postes frontaliers à travers le Canada qui sont capables de recevoir les demandes et de les traiter. Et désormais, vous allez pouvoir vous rendre à n'importe quel de ces endroits-là et déposer les papiers, puis ce sera pas à travers une marche dans une forêt, ça va être dans un poste, puis ça va être fait convenablement et normalement, comme ça aurait dû être le cas depuis le début.
Oui. Alors, vous le savez, quand on parle d'immigration au Québec, ce sont des questions délicates parce que la ligne entre demander, par exemple, d'abaisser les taux d'immigration, imposer des limites, justement, à une entrée illégale ou une entrée irrégulière, ben la ligne est très mince entre ça et se faire traiter de raciste. J'aimerais vous entendre là-dessus. Comment on peut contrer ces accusations-là de racisme ou de xénophobie ou d'intolérance quand on parle de la question délicate de l'immigration, Monsieur Saint-Pierre Plamondon?
Je ne sais pas ce qui est possible de faire. Ce que je sais, c'est que ces sujets-là sont imposés par certains groupes qui sont fortement marqués par une idéologie où plus d'immigration est toujours synonyme de plus de vertu et plus de moralité que les autres. Mm-hmm. Donc, quand je réagis sur les seuils d'immigration, je réagis à une sortie du patronat qui dit « ça nous prend 80 000 par année, 80 000 immigrants au Québec par année au lieu de 50 000 ». Quand je réagis, c'est à la sortie de Dominique Anglade qui dit « ce sera au moins 70 000 ». Mais de manière intéressante, lorsque ces intervenants-là, qui sont fortement influencés par de l'idéologie, font ces sorties-là, personne ne les remet en question. Et je viens de répondre justement à ça à un journaliste en point de presse ce matin. Je ne serais pas contraint à l'omerta de peur de me faire traiter d'intolérant, alors que tout ce que je fais, c'est réagir à une initiative dans l'actualité que vous-même, journaliste, vous rapportez. Si on n'est pas capable d'avoir de dialogue objectif et intéressant sur est-ce que ce qui est proposé est une bonne mesure ou non, bon, on n'est plus en démocratie.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas tellement vous qui amenez le sujet sur le tapis ou qui en fait une... Parce que c'est ça, hein, le reproche, c'est qu'on dit le PQ en fait une obsession, une fixation. Ben, c'est pas tellement que vous en faites une fixation, c'est que c'est constamment ramené dans l'actualité. On va toujours bien pas passer à côté et faire comme si ça n'existait pas.
Oui,
Ouais, il nous reste un tout petit peu de temps. Je veux juste vous faire réagir à un texte de mon collègue Mathieu Boccoté qui nous parle du retour du coup de la Brinks. Donc, sans rentrer dans tous les détails, il reste que il y a des différents représentants, mais disons du patronat ou des chambres de commerce qui disent « Oh mon Dieu, la loi 96, ça va faire fuir les capitaux, ça va faire fuir les anglophones, ça va faire fuir les entreprises. » Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Parce qu'il me semble, moi, que la loi 96 est très, très, très timide.
Elle est complètement incapable de renverser le déclin de la langue française selon tous les démographes qui ont été entendus en commission parlementaire. Mais pour les gens, puis je trouve le parallèle avec la Brinks intéressant parce qu'on est dans les années 70, il y a quelque chose de constant dans l'histoire du Québec, c'est que pour certains intervenants, le fait français en soi, ça nuit. C'est une nuisance à notre économie, c'est une nuisance à notre prospérité. Il y a une non-acceptation du fait français dans certains segments qui, aujourd'hui, là, essaient de nous faire croire que le projet de loi 96, c'est la même chose que l'Ukraine et la Russie, que le projet de loi 96 va créer un effondrement de notre économie. Quand on écoute attentivement leurs discours à travers les décennies, ce sont des groupes qui, en fait, n'acceptent pas et voient comme un handicap ou un problème le fait français au Québec. Le fait que le français soit notre langue officielle et commune.
Et
donc,
très rapidement,
il va falloir se battre. Ce sera pas
et très rapidement, des groupes autochtones qui disent que imposer du français dans les cégeps anglophones, ça va mener à un génocide culturel pour les autochtones. Vous répondez quoi, très 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 brièvement, Monsieur Saint-Pierre Plamondon?
Que leur demande, c'est de faire leur cégep en anglais. Donc la question qu'on doit poser, c'est en quoi l'anglais permet aux langues autochtones de fleurir, en quoi l'anglais est-elle une langue autochtone? Moi, je ne comprends pas. Et je rappelle que le français est la manière de communiquer avec la grande majorité des gens sur le territoire québécois.
Très bien répondu. Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, merci beaucoup d'être venu réagir aujourd'hui à toutes ces informations-là qui sont dans l'actualité et qui méritaient une réponse. Merci, ça a été très intéressant de vous parler.
À une prochaine.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il a vécu dans la controverse et on peut dire qu'il est mort aussi dans la controverse. L'ex-animateur de radio André Arthur, décédé au cours des derniers jours. Ça provoque beaucoup, beaucoup de réactions à Québec, mais aussi ailleurs dans la province. On va en parler avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, et directrice adjointe à l'information au Journal de Québec. Karine, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Alors, écoute, c'est quand même assez particulier parce que depuis qu'on a appris qu'il était mort à l'âge de 78 ans, il y a des réactions vraiment qui s'en vont dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent à quel point c'était un communicateur extraordinaire sans jamais parler des différentes poursuites en diffamation, par exemple. Et il y a des gens qui ne font pas que parler de ses propos controversés sans souligner le communicateur qu'il était. Tu te situes où, toi, dans tout ça, par rapport à André Arthur?
Ben moi, je dirais que je pense qu'on peut pas faire abstraction de tout le mal et les dommages que cet homme-là a quand même fait derrière son micro. Je pense que quand on a un micro, on a aussi une responsabilité, puis on peut pas raconter n'importe quoi. Et quand je lis, j'entends Myriam Segal dire que c'était la Formule 1 de la communication. Tu te souviens en chronique ce matin, là,
oui.
Quand elle dit qu'il manquait de frein dans les virages serrés, je m'excuse, mais je pense qu'on peut pas résumer à ça, à cette euphémisme.
Oui.
Moi aussi, je lisais le fils de Gilles Duceppe en fin de semaine sur Twitter qui disait, bon, je lui ai pardonné, mais tu sais, cet homme a laissé entendre que moi et ma soeur, on avait une relation incestueuse. Tu te dis, c'est vrai que tu peux toujours pardonner, mais on peut pas faire comme si ça avait pas existé. Puis tu sais, dans les dernières semaines, on parlait beaucoup du départ de Jeff Fillion à Québec. Bon, puis j'espérais que c'était la fin de la radio poubelle, mais moi, je pense que le début de cette radio poubelle-là, ça a été avec André Arthur à Québec. Là, puis ça a fait énormément de dommages. Ça a eu un impact considérable sur Québec aussi, puis le manque de fierté, il y avait beaucoup de cynisme, disons une mauvaise ambiance à Québec, puis pendant longtemps, puis je pense que André Arthur y a très certainement contribué.
Parce qu'il faut expliquer pour les gens qui sont peut-être pas au courant, c'est que André Arthur, son principe, c'était de dire à la gang, on sait tout, donc de dire, ben ouvrons les lignes, puis si y a une situation qui a besoin d'être dénoncée, plus les citoyens vont s'exprimer, plus on va pouvoir avoir toutes les pièces du puzzle. Donc à la base, l'idée est pas mauvaise. Le problème, c'est que si tu mets n'importe qui en onde, qui dit n'importe quoi et que tu ne vérifies pas les informations, c'est là que tu commences à avoir des dérapages. C'est là que tu détruis des réputations. Et Catherine Dorion, la députée de Québec solidaire, a raconté, elle a fait une longue entrée Facebook pour parler de l'impact d'André Arthur sur sa vie. La carrière de son père a été détruite par André Arthur, et dit il lui a suffi d'un mensonge et d'un micro pour détruire. Son père a été obligé de déménager, de quitter Québec, parce qu'André Arthur avait détruit sa réputation. C'est quand même pas rien. C'est pour ça que moi aussi, quand il y a Myriam Segal qui dit il était intègre et intense, je trouve que c'est un peu fort de café quand même de résumer la carrière de quelqu'un à ça.
Ben, je pense que ça manque énormément de nuances. Je pense qu'on peut pas faire abstraction de tout ce qu'il a causé comme dommage. Puis moi, je me souviens là au début de ma carrière, quand je suis arrivée à Québec, moi je suis originaire du Saguenay, alors j'ai goûté aussi à cette radio poubelle-là, parce qu'à l'époque, il y en avait à Saguenay avec Louis Champagne, là, qui je crois aujourd'hui est à la retraite, mais bon, c'était un peu le même genre, là. Et puis, quand je suis arrivée, André Arthur, ça faisait un malin plaisir de parler contre les femmes. Ça n'avait pas changé d'ailleurs. Là, ça a été jusqu'à son séjour à l'hôpital contre les infirmières qui en prenaient soin.
Oui.
Mais je trouvais ça terrible. Moi, j'avais début vingtaine, puis tu sais, il faisait appeler des gens en onde pour dire à quel point les femmes ne savaient pas conduire. Puis là, je me disais, voyons, je suis rendue où, moi, là? Je suis rendue à quelle époque, là, tu sais? Je trouvais ça complètement débile. Puis tu sais, il a fait la même chose avec les enseignantes qui qualifiaient de maudite folle, supposément parce que elles demandaient des listes d'aliments, mais tu sais, ça n'est pas nécessairement des enseignantes, c'est des règles. Puis tu sais, il tournait les coins très ronds souvent. Puis c'est ça, là où je voulais en venir, c'est que quand j'étais jeune journaliste, des fois nos patrons nous demandaient de reprendre des histoires. On s'aperçoit l'histoire qu'André Arthur déblatérait en Londres, finalement, on s'apercevait qu'il n'y avait rien qui tenait là-dedans.
Puis, tu sais, très intéressant.
Ben, tu pouvais dire à peu près tout en ondes, mais tu ne pouvais pas le reprendre à l'écrit, parce que les écrits restent, comme on disait. Aujourd'hui, c'est différent, parce qu'il y a eu de la jurisprudence, il y a eu des poursuites. On en parlait aussi par rapport à Jeff Fillion. Heureusement, il y a des limites. Mais tu vois, aujourd'hui, peut-être que ça s'est transporté sur les réseaux sociaux, puis c'est là-dessus qu'André Arthur sévissait là, dans ses dernières années. Depuis qu'il avait perdu son micro, il était très, très actif sur Twitter, puis il écrivait un paquet d'insanité tellement que moi, je l'avais bloqué. Puis je me suis aperçue, qu'il m'avait bloqué aussi, mais je voulais plus voir passer ces messages. Je trouvais ça... Moi, je me dis, est-ce que j'ai besoin de ça? Non, bon. Alors, puis c'était dans la même lignée là de s'en prendre à un peu tout le monde. Puis j'écoutais encore une fois Myriam Segal dire bon qu'il était pas lui qui causait la controverse, mais qui était le miroir de la controverse.
Genre, ben voyons donc.
Non, il était au cœur de la controverse. C'est lui qui la partait là, qui était à la source là, bien souvent. Puis je pense qu'on peut pas oublier ça, puis on peut pas le mettre de côté, même si on peut avoir beaucoup de sympathie pour les proches là qui ont perdu.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre.
On peut pas faire abstraction. C'est ça, on peut pas faire abstraction de l'animateur puis de tous ces faits et gestes là, pendant autant d'années.
Alors, donc, moi, j'ai déjà partagé le micro avec lui, ben pas directement, mais on était tous les deux employés de la même station de radio à Québec. Je travaillais à Boulevard et lui aussi. Et à un moment donné, donc, il a tenu des propos en ondes où il a parlé de la rue Saint-Jean à Québec. Il voulait parler d'un restaurant, puis je sais pas pourquoi, il y a eu une autre crampe au cerveau, et il a commencé à parler de la rue Saint-Jean où se trouvait ce restaurant en disant le boulevard Sida dans le quartier gay. Donc, c'est des propos qui ont été dénoncés haut et fort par la communauté LGBT à Québec, et avec raison. Et moi, le lendemain, sur les ondes de la radio, puis c'est quand même assez rare que tu vois ça, je m'excuse, là, je veux pas me lancer des fleurs, mais c'est rare quand même que dans une station de radio, un animateur ou une animatrice prenne le micro pour se distancier et dénoncer haut et fort les propos d'un collègue, et je l'avais fait. J'avais dénoncé les propos d'André Arthur en disant que je trouvais ça inacceptable, que c'était des préjugés d'associer comme ça les gays avec le sida, puis que c'était dérogatoire. Et quelques temps après, André Arthur a été remercié de la station. Mais il est toujours resté dans l'idée que j'étais allé voir les patrons et que j'avais exigé son départ, ce qui est totalement faux. Et donc, depuis ce temps-là, sur les médias sociaux, ils s'en prenaient à moi, j'étais une sotte, j'étais une prétentieuse, j'étais ci, j'étais ça, mais ils inventaient des choses à mon sujet. Puis moi, j'ai goûté à 0,01% de la médecine d'André Arthur, là. Il aurait pas fallu qu'il m'accuse de coucher avec mon frère comme il l'a fait avec Alexis Duceppe, Brunel Duceppe, là. J'aurais été bleu marin. Donc c'est ça, il faut que les gens comprennent que c'est pas juste un propos par-ci par-là. L'Allier, tout le monde y a goûté là.
Ah oui, Monsieur L'Allier y a goûté avec son épouse. Il faisait courir toutes sortes de rumeurs épouvantables.
Voilà des insinuations.
Ben exactement. Puis ça, c'est une question d'éthique là. Quand on travaille dans le milieu des médias, du journalisme, on peut pas tolérer ce genre de mi-vérité ou de mensonge, puis en faire, parce que tu sais, à force de répéter aussi des choses qui sont fausses, ça devient presque des vérités, hein, les gens les croient. Puis je comprends que ça pouvait peut-être servir de défouloir collectif, mais est-ce qu'on pourrait trouver d'autres façons? Je pense que heureusement là, ce genre de modèle là, je pense pas qu'on puisse croire que ça pourrait exister à nouveau. Puis, tu sais, ça fait une centaine d'années là que la radio francophone existe en Amérique du Nord, au Québec. Et puis, je pense que c'est une bonne chose de voir l'évolution que ça a pu avoir parce que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que ça pourrait plus exister, là, ce genre de personnage-là qui dit à peu près n'importe quoi sur n'importe qui, puis qui ouvre les lignes avec, tu sais, c'était les gens qui appelaient, c'était des rumeurs, c'était pas vérifié.
Ben voilà.
Ce qu'on apprend en journalisme, c'est que les informations non vérifiées qui proviennent pas de plusieurs sources, ben, c'est pas valable. Alors, ça l'est pas plus, à mon avis, quand c'est sur les ondes. Alors, il y avait comme deux poids, deux mesures, là.
Ouais. Tu sais, quand j'ai étudié en journalisme à l'Université Columbia à New York, on nous a appris, les premières phrases qu'on nous a apprises quand on arrivait, c'était une phrase en anglais qui disait « If your mother says she loves you, check it out. » Si ta mère te dit qu'elle t'aime, vérifie tes sources. Donc,
oui,
même quelque chose qui te paraît une évidence, il faut quand même que t'ailles vérifier et revérifier. Et si tu te trompes, ben tu t'excuses puis tu fais face aux conséquences. Hein. C'est aussi ça le jeu. Puis écoute, je lisais hier, je pense qu'il y a eu 60 poursuites en diffamation. Tu ne peux pas, un personnage comme ça ne peut pas disparaître et que tu fasses semblant de prendre toutes ces poursuites en diffamation-là, en les passant sous le tapis, en disant « Ah ouais, c'était un pilote de Formule 1, mais de temps en temps, il y avait des dérapages. » Je m'excuse, c'était pas juste des dérapages, malgré toute l'affection qu'on peut avoir pour le personnage, mais je pense que dans le cas de Myriam Segal, elle avait travaillé avec lui comme recherchiste, et je pense qu'elle voulait lui rendre hommage puis dire à quel point cet homme-là lui a appris le métier. Tu peux faire ça et quand même reconnaître que, écoute, des vies ont été détruites par sa faute et, écoute, de toute façon, il en a payé des dommages, ou les stations en ont payé aussi des dommages, donc il y a une reconnaissance de culpabilité. Puis
tu sais, plusieurs personnes ont souligné sa grande intelligence, mais justement, d'autant plus quelqu'un
voilà.
qui est très intelligent devrait utiliser son intelligence à bon escient. Et s'il fait l'inverse, ça peut être dévastateur. Là. Alors, ouais. C'est un peu là-dedans qu'il jouait. Là.
Bon, et on se prépare, évidemment, toi et moi, à recevoir tout plein de courriels et de messages de félicitations de la part des fans d'André Arthur. Ça va être très le fun à vivre. Moi, je pense que je vais fermer mon compte Twitter et Facebook pendant les 48 prochaines heures. Parce que ça risque d'être assez laid, merci. Écoute, on voulait parler d'un autre sujet qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Personnellement, je trouve que c'est une grosse patente qui sert pas à grand-chose, mais toi, tu y vois du positif dans le fait qu'ils viennent s'installer chez nous, là.
Ben écoute, je suis prête à donner la chance au coureur. Je trouve ça intéressant qu'on ait une vitrine de l'Organisation internationale de la francophonie à Québec. C'est quand même assez particulier d'ailleurs qu'on ait rien en Amérique du Nord, alors que bon, le Québec est quand même
un petit peu important. Ouais.
Alors, il faudra voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Mais je pense que n'importe quel outil qui peut s'ajouter pour protéger la langue française, moi, j'y vois quelque chose qui peut être positif. Je trouvais, par contre, tu sais, j'écoutais les entrevues avec la dame là, qui préside, qui dirige l'organisme en question, puis je trouvais qu'on n'arrivait pas trop à saisir qu'est-ce qu'ils allaient faire concrètement. Alors, c'est ça qu'il va falloir surveiller. Mais, ils déménagent aussi de Paris à Québec, l'Observatoire de la langue française. Donc, eux, ils documentent les avancées, le déclin de la langue. Et puis, on a des chercheurs, entre autres, de l'Université Laval qui sont associés à ça. Alors, je pense que ça peut avoir du positif maintenant. Faudra voir concrètement ce que ça va donner.
Oui, ça va être intéressant, surtout dans le contexte où, évidemment, quand on habite à Québec, on est peut-être moins exposé à ça, mais avec l'anglicisation de Montréal... ça va être intéressant qu'il y ait ces deux pôles-là, tu sais, l'Organisation internationale de la francophonie installée à Québec. Ben, on espère que justement ils vont pouvoir aussi alerter sur le fait que le français disparaît peu à peu. Écoute, je te donne juste un exemple. Moi, chaque jour j'ai des exemples parce que tu sais, les anglophones nous font croire que c'est le paradis sur terre pour les francophones de vivre à Montréal puis qu'il n'y en a pas de problème. Je monte dans un gym, OK? Et chaque jour, quasiment, je vais me plaindre parce que il y a des profs qui donnent les cours majoritairement en anglais. Il y a des profs qui pensent que être bilingue au Québec, c'est parler anglais et espagnol. Le français, ils en ont jamais entendu parler. Bref, hier, j'avais besoin de faire défaire le cadenas de mon casier. Je vais voir la préposée qui travaille. Pouvez-vous me parler en anglais? Can you speak to me in English? Je dis, ben voyons donc. Je dis, voir que un centre sportif à Montréal engage quelqu'un qui est même pas capable de dire, elle comprend pas le mot bonjour. Le mot bonjour. Donc j'ai hâte de voir l'Organisation internationale de la francophonie, leur observatoire. Qu'est-ce qu'ils vont observer justement comme disparition? Puis comment ça se fait qu'il y a des entreprises qui engagent des gens qui sont des unilingues anglophones?
Ben écoute, à Québec, ça existe pas, là. Ça se pourrait
ben,
pas.
C'est
des
ça.
Cours, même des cours, tu me dis ça, puis ça me donne le frisson. Là. Des cours juste en anglais. À Montréal, c'est quand même assez fou. Puis oui, j'espère qu'ils vont le documenter puis pouvoir suivre l'évolution du phénomène parce que clairement, on n'hallucine pas là. Ça se dégrade puis ça. Si on fait rien, si on regarde ça aller puis qu'on s'en préoccupe pas trop, imagine ça va être quoi dans 20, 25 ans, 50 ans. Il y aura plus de français à Montréal ou on s'exprimera plus en français. Alors, je pense que c'est bon qu'on ait des organismes qui s'installent au Québec pour justement rappeler l'importance de la langue française ici, l'importance de la protéger. Et puis, en tout cas, je vais surveiller ça de près, là, voir s'ils vont être capables, être en mesure de faire.
On compte sur toi, Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci beaucoup, Karine, et à très bientôt.
Merci.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous avez sûrement entendu parler du programme La culture à l'école. C'est une école qui accueille soit un artiste ou un écrivain. C'est un projet du ministère de l'Éducation. Mais le projet dont je veux vous parler aujourd'hui est très particulier. C'est le projet de l'artiste Annie Muller et elle a décidé, elle, de mettre en contact des jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage dans une école secondaire et des aînés qui sont en début de perte d'autonomie au CHSLD. Annie Muller, qui est artiste peintre, est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Muller.
Bonjour.
Alors, comment vous est venue cette idée de réunir les générations pour votre projet culturel?
Mon cheminement, il est assez particulier. En fait, ça fait 17 ans que j'enseigne l'art plastique dans les CHSLD de la région de Lanaudière. Moi, je suis sûre que ça a changé ma vie, mon cours d'histoire, quand j'ai eu ce métier-là. J'ai été très touchée par ces gens-là, mais aussi j'ai eu des graves problèmes d'apprentissage. Puis le projet est né surtout dans le cadre de ma maîtrise à UQAM. C'est ma maîtrise qui était c'est une nouvelle maîtrise qui existe depuis 2 ans. C'est recherche et intervention en art visuel.
D'accord.
Puis c'est en parlant de moi un peu, puis en parlant de l'importance de mon métier que je fais depuis 17 ans, que j'ai créé un projet qui s'appelle Création intergénérationnelle, puis je me suis un peu plus concentrée sur justement l'importance du vieillissement au Québec. Quel impact que ça a dans notre avenir aussi au Québec? Puis là, d'où m'est venu le projet de création intergénérationnelle pour tisser des liens entre ces deux générations-là qui sont complètement, pas à l'opposé, mais qui sont très différents et rapprochés.
Oui, en même temps, ils peuvent avoir aussi des choses en commun.
Oui.
Dans le cas des jeunes en difficulté d'apprentissage, dans le cadre des adultes en perte d'autonomie, comment vous les jumelez et comment ça se passe concrètement?
Qu'est-ce qui m'a beaucoup touchée, ce que j'ai remarqué dès le début de mon objectif, c'est de voir s'il y a possibilité avec l'art, par l'art, de rassembler, parce que toutes les deux, c'est certain qu'ils manquent beaucoup de confiance en eux, par la perte d'autonomie, mais aussi par ces jeunes qui sont un peu blasés de l'école, qui se demandent qu'est-ce qu'ils font sur la terre, là, très jeunes, ils se demandent leur objectif de vie, c'est quoi concrètement. Puis, c'est un peu ça qui m'a amené à aller essayer de faire quelque chose de concret dans leur vie, les amener à voir la vie un peu d'une autre manière. Puis j'ai remarqué vraiment auprès des jeunes, juste sortir dans le cadre de l'école, sortir du cadre de l'école, ça fonctionne tellement bien. C'est un but pour eux autres, je les ai préparés à ça. C'était vraiment... Puis les personnes âgées, ben ça les stimule à se réveiller, à se lever.
Mais c'est sûr. Donc, vous prenez ces jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage, vous les sortez de l'école, vous les amenez au CHSLD. Quand ils mettent les pieds la première fois dans un CHSLD, ils doivent, excusez-moi l'expression, mais ils doivent capoter.
Oui, ben je les ai préparés. J'avais montré un cours pour les préparer à qu'est-ce qu'un CHSLD, l'éthique qui est très importante. Il y a beaucoup de monde déjà à l'adolescence qui ne savent pas c'est quoi l'éthique. Je les ai amenés aussi à créer et commencer à avoir confiance en eux juste en créant, là, aussi, là, parce qu'il y en a beaucoup qui se pensent qu'ils sont pas bons à créer, parce qu'ils ont des attentes. Puis, en fait, je les ai préparés à dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Surtout dans le temps de la COVID en ce moment, ben, il faut que tu sois vacciné. À l'époque, c'était 2 fois. Il faut que tu amènes tes vêtements de rechange. Puis il faut que tu vouvoies les gens. Mais ça s'est généralement très, très bien passé. Vraiment, il était excité, il avait vraiment hâte de sortir de l'école, il avait hâte de voir c'était quoi, parce que j'avais même pris des photos avec l'accord du CHSLD de Claude David, oui, qui ont été formidables tout le long de mon cheminement, là. Ils ont cru dès le début à mon projet, puis m'ont chapeauté, ils m'ont dit oui, on te laisse la chance de prendre des photos, parce que c'est difficile dans le contexte des CHSLD de prendre des photos, hein. Puis d'amener ça, même des vidéos, j'ai pris des vidéos pour un peu amener l'élève à comprendre le contexte de qu'est-ce qu'une personne vraiment âgée ou handicapée, les trous de mémoire, mais c'est pas juste ça, il y a des maladies beaucoup plus graves qui ont côtoyé, tu sais. C'est comment intervenir avec eux.
Oui, puis vous aviez votre expérience après vos 17 années donc en CHSLD, mais c'est quand même assez incroyable parce que avant, à une certaine époque, pas si lointaine que ça, les jeunes et les plus âgés étaient en contact, ne serait-ce que parce que grand-papa, grand-maman, ils vivaient à la maison où on côtoyait beaucoup plus les grands-parents. On vit maintenant une société très morcelée avec les jeunes d'un côté, les entre-deux, puis les personnes âgées plus isolées. Ce que vous avez fait, c'est un pont entre ces générations-là qui normalement se rencontrent pas.
Exactement. C'est que la rupture qu'on a faite avec la société qu'on travaille beaucoup, on travaille puis on n'a pas le temps de s'occuper tout le temps. Il y en a qui avaient déjà des ponts établis à cause de leurs grands-parents, mais encore là, il y en a plein qui ont... Tu sais, qui n'ont pas eu la chance d'aller dans les hôpitaux, dans les CHSLD, rencontrer ces gens-là. Fait que c'est vraiment de tisser un pont pour les rapprocher. Puis dans mon cours, j'ai fait aussi un cours pour faire comprendre que la moyenne d'âge, c'est 85 ans. Fait que 85 ans, c'est 1935 jusqu'en 2022. Fait qu'il y a un gros large d'apprentissage que l'élève doit faire pour comprendre ce cheminement-là, que cette personne âgée-là peut transmettre. C'est énorme. Ils ont connu la guerre, ils ont connu la fusée qui a été sa lune, ils ont connu... écoutez, ils ont connu tellement, c'est incroyable, le CD, la cassette, tout ce bassin-là de musique aussi, de l'art. Hein, l'art s'est démocratisé aussi beaucoup. Fait que c'est un paquet de choses. Hein, l'intelligence artificielle qui est arrivée parmi nous, l'auto électrique, puis l'arrivée des autos, puis la disparition des trains. Pour
oui,
nous,
mais c'est...
avoir un auto, c'est très normal, là, mais pour eux, ça a changé leur cours.
C'est quelque chose, ben, l'apparition de la télévision, toutes ces choses-là, évidemment, qu'on prend pour acquis aujourd'hui.
L'évolution de la télévision, ça, j'ai fait une magnifique présentation sur l'évolution de la télé. C'est très drôle.
Mon ado de 14 ans, des fois, quand je lui dis, quand je suis venue au monde, moi, on n'avait pas des ordinateurs à la maison. Déjà, lui, ça lui paraît absolument, il y a les yeux écarquillés. Donc, vous avez fait ce projet-là. Il y a une exposition qui va avoir lieu à la fin du mois de mai, aux Galeries de Terrebonne. Qu'est-ce que vous espérez comme façon de toucher les gens avec cette exposition, le résultat de cette réunion de deux générations?
Oui. En fait, si vous voulez nous rencontrer là pour les Galeries de Terrebonne, ça serait le samedi matin jusqu'à 2h, parce qu'on s'entend que les personnes âgées peuvent pas sortir très longtemps. Ils vont être fatigués. Fait que si ça vous tente de venir nous rencontrer aux Galeries de Terrebonne à partir à peu près 10h30 jusqu'à 2h. Puis là, ça va être le moment idéal de faire un échange avec eux, autant avec les aînés, mais autant les adolescents. Puis ils vont pouvoir vous raconter un peu comment ça s'est passé. Puis en même temps, ça va être le moment de prendre un recul vis-à-vis les œuvres qu'ils ont créées, hein.
Mm-hmm.
Fait que ça arrive pas souvent de recueillir des commentaires du public. C'est quand même valorisant de socialiser, hein. On sait, durant la COVID, les gens ont beaucoup souffert de manque de socialisation. Puis d'où le but de mon projet, c'est de l'importance de socialiser aussi par l'art, hein.
Oui, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Annie Muller, vous êtes artiste peintre, donc vous avez mis sur pied ce projet-là de co-création.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Ben, ça fait plaisir en différentes générations, donc des jeunes en difficulté d'apprentissage de l'école secondaire L'Horizon, jumelés à 10 aînés en début de perte d'autonomie au CHSLD Claude David de Repentigny. Merci beaucoup, Madame Muller.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Vous connaissez l'organisme pour les droits des femmes Québec, PDF. Ils ont organisé hier une manifestation costumée comme les servantes écarlates devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le projet de loi 2 qui, selon elle, va faire reculer les droits des femmes dans différents enjeux. Parmi les manifestantes, il y avait Valérie Pelletier. Elle est au bout de la ligne. Madame Pelletier, bonjour.
Oui, bonjour.
Pour quelle raison vous êtes allée manifester à Québec?
En fait, les membres de PDF Québec sont allés pour contester le projet de loi 2 qui actuellement vise à faire vraiment un révisionnisme du langage et de la façon qu'on perçoit la réalité de hommes et femmes. Donc, ça vise à permettre qu'on puisse changer la mention de sexe sur les cartes d'identité. Et nous, ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment important de garder la caractéristique de sexe biologique. On n'a pas de problème à ce que les personnes qui ont un sentiment d'identité de genre incongru ajoutent une mention de genre, mais pas qu'on efface la question de sexe. Ça a des tonnes d'impact partout. Il y a aussi tout un révisionnisme du langage par rapport à la question des mères, où on se retrouve avec des formulations comme « parent » ou « personne qui a donné naissance à l'enfant », « personne qui porte l'enfant ». Donc, on vit vraiment un effacement du mot « mère » dans tout ça. Alors, il y a vraiment plein de raisons aussi par rapport au fait que bon, ça amène à accepter que des enfants pourraient avoir un sentiment de genre qui serait tellement important qu'il faudrait intervenir médicalement pendant qu'ils sont encore mineurs. Alors, c'est toutes des choses sur lesquelles PDF Québec a des réserves. Donc, en tant que membre, je participe activement à cette militance-là.
D'accord. Bon, il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous venez de nous dire, donc on va les prendre un par un. Par exemple, l'identité. Moi, j'ai 56 ans. Toute ma vie, quand une femme donnait naissance à un enfant ou quand une femme adoptait un enfant, peu importe, on l'appelait ça une mère ou une maman. Donc, qu'est-ce qui vous inquiète dans la possible disparition? Et ce serait documenté comment cette disparition du mot mère? C'est à cause du projet de loi 2 sur la gestion pour autrui, c'est pour ça?
Oui, une autre membre de PDF pourrait être disponible pour répondre plus amplement aux questions sur la GPA. C'est moins mon domaine d'expertise, mais effectivement, on se retourne avec plein de façons de twister le langage qui mène à l'effacement des mères et donc à la réalité des femmes qui sont femmes puisqu'elles ont un corps de femme, qui a des aptitudes biologiques, qui fait que c'est la raison pour laquelle on nous a opprimés depuis que le monde est monde. Donc moi, j'ai pas été opprimée en tant que femme parce que je me sens femme ou parce que j'ai l'air d'une femme, mais vraiment foncièrement parce que j'en suis une. Donc c'est les capacités reproductives de mon corps qui fait que toutes les générations de femmes avant ma grand-mère ont été forcées d'être encabanées à faire des tâches domestiques et à s'occuper des enfants pour fournir une descendance au mari. Donc c'est vraiment dans un schéma où on s'éloigne pas du patriarcat en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit qu'on consolide une identité de genre qui encore mériterait vraiment d'être débattue. C'est quoi ça, une identité de genre? Un sentiment qu'on aurait un alignement entre le corps et l'esprit. Donc, ça nous ramène à un dualisme aussi qui nous ramène vraiment à la religion, l'idée qu'on aurait comme une sorte d'âme immatérielle dans un corps. Donc, nous, on dit c'est vraiment dangereux parce que ce que ça donne sur le terrain, ben ça donne que maintenant, depuis plusieurs années déjà, au niveau fédéral, Statistique Canada répertorie sous la base du genre et non plus du sexe. Alors, le risque de ça, ben on se retrouve avec des prisonniers hommes dans des prisons pour femmes, c'est déjà le cas. On se retrouve à répertorier des crimes de nature sexuelle qui sont des viols commis par des hommes envers majoritairement des femmes et des enfants, comme étant il suffit que cet homme dise se sentir femme. Alors, comme maintenant, on a besoin que de s'auto-identifier dans un genre pour faire changer sa mention de sexe. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça a des répercussions, c'est pas banal. Alors, on impose des personnes de sexe masculin, donc des corps d'hommes, dans des prisons pour femmes, dans des refuges. On dit aux petits-enfants que c'est possible de ne pas être né dans le bon corps. Donc là, on est dans des notions qui sont vraiment strictement idéologiques.
Vous savez que en tenant ce discours-là, dans l'état d'esprit actuel au Québec, il y a des phrases que vous prononcez qui vont faire en sorte qu'il y a des gens du lobby des personnes transgenres qui vont vous traiter de transphobes. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là?
Je vais commencer par leur demander de venir à la table de discussion avec des définitions claires, chose qu'ils refusent, mais refusent à tout prix de nous fournir. Donc, c'est quoi une définition de femme? Ils vont nous offrir une définition circulaire qu'une femme, c'est toute personne qui se sent femme. Donc, si vous voulez travailler des projets de société à partir de choses floues comme ça, ben ça appartient aux gens qui veulent faire ça, là. Mais je veux dire, c'est inacceptable. Il faut avoir des définitions claires sur les termes, de quoi on parle. C'est quoi de la dysphorie de genre, justement? Peut-on l'expliquer? Ce sentiment-là, alors même plus, ils vont dire oh, on n'a pas besoin finalement d'avoir un sentiment de dysphorie pour se sentir soit non-binaire ou transgenre. Donc vraiment, c'est une question de définition. Nous, nos définitions sont très claires et sont partageables par l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire une femme est une personne adulte femelle de l'espèce humaine qui a un système reproducteur de femelle, et un homme est une personne homme de l'espèce humaine qui fait son rôle dans la reproduction qui est complètement différent de celui de la femme. Donc ça, là, ça réduit pas les personnes à juste leur sexe. Ça émet une réalité qui est médicale, biologique et historiquement importante pour comprendre les oppressions. Puis si on enlève ça, on n'a plus de vocabulaire pour décrire la réalité et on se retrouve à effacer les femmes, on se retrouve à effacer les personnes homosexuelles et les lesbiennes surtout, parce que c'est toujours les femmes qui vont en subir plus que les hommes. Les hommes ont aucun problème à refuser des personnes de sexe féminin dans leurs espaces, ils l'ont toujours fait. Mais nous, si on décide dans nos lieux qui sont presque toujours des lieux de care, donc des lieux de soins, comme des refuges, des groupes de soutien pour femmes seulement. Si on dit qu'on refuse une personne de sexe masculin, puisque son expérience vécue et ses luttes sont pas les mêmes que les nôtres. Les luttes des personnes transgenres sont les luttes des personnes transgenres. Ils ne recoupent pas vraiment avec les luttes féministes, parce que souvent on se retrouve, nous on veut parler d'avortement, on veut parler de la réalité de notre corps, on veut parler de la difficulté de vivre sous des stéréotypes, puis on se fait dire tout à coup, non, mais ces stéréotypes-là, en fait, c'est super important, ça aide à définir notre identité, là. Donc, on n'a pas le même discours, c'est pas les mêmes combats. Alors, laissons les féministes faire des débats qui centrent la cause des femmes et laissons les personnes trans s'organiser et faire leur combat. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est un hijacking de notre vocabulaire, de nos espaces, de nos mots. Une personne qui se dit femme veut être reconnue comme exactement la même chose qu'une femme. Donc, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Moi, quand on me traite de transphobe, ça fait 4 ans que je suis pris dans ce combat-là environ. Ça me coule par-dessus. Moi, j'arrive à la table de discussion avec des définitions claires, avec l'idée de voir comment ces concepts-là affectent la réalité de groupes qui existaient préalablement. Donc, le groupe femme est un groupe opprimé qui mérite vraiment ses propres luttes et ses propres structures pour justement adresser ses besoins. Mais là, on se retrouve dans un effacement total de tout ça. Et donc, l'effacement des lesbiennes est particulièrement marquant, puisque si on dit que c'est pas l'homosexualité, que c'est maintenant l'attirance au genre, donc une femme lesbienne attirée strictement par les femmes, mais presque plus capable en société de vouloir organiser un événement qui serait non mix, qui serait seulement entre femmes, encore moins de refuser ce qu'ils disent être des pénis de femmes. Donc là, c'est ça qu'il faut voir, c'est que nous, de notre côté, on se fait gaslighter solidement, puis on se fait constamment dire que notre réalité n'a pas d'importance et que le genre doit remplacer le sexe, en fait, et on n'est pas d'accord avec ça. C'est simplement
ça. Je comprends.
Ça, c'est pas ça a été méchant, c'est qu'on peut pas donner des gains à un groupe opprimé au profit d'un autre groupe opprimé. Donc, en fait, on n'est pas les méchantes. On veut juste garder les protections sexo-spécifiques qui défendent les femmes, puisque en patriarcat, les femmes ont besoin de protections sexo-spécifiques. Ça va pas plus loin que ça. Il n'y a pas de méchanceté. On n'empêche pas personne de vivre et d'exprimer sa vie comme il veut. On veut juste pas d'effacement et de renversement du langage qui fait qu'on n'existe plus. Donc, les mères n'existent plus dans ce nouveau langage-là.
Voilà. Et si c'était simplement des discussions, disons, universitaires ou des discussions de militants, ce serait une chose. Mais ce que vous dénoncez, ce que je comprends, c'est que ce soit maintenant aussi dans le projet de loi 2 que ce vocabulaire-là soit présent. Donc, parlez-moi un petit peu de la manifestation hier. C'était quoi le but et est-ce que vous avez eu une réponse du ministre Jolin Barrette?
Malheureusement, j'y étais pas présente, donc je serais pas capable de vous donner de détails sur la manifestation et sur comment ça a été reçu. On espère pouvoir donner des nouvelles à travers la page de PDF Québec prochainement. Mais c'est sûr que nous, on lâchera pas nos actions. Ça, c'était une première petite manif éclair, puisque ce projet de loi-là a été déposé comme ça, rapidement, sans avertissement. Alors, on a senti le besoin en 2-3 jours de réagir et d'organiser une manif éclair, mais on lâchera pas, hein. On a nos costumes de servante écarlate pour dénoncer la GPA. Et puis, on lâchera pas PDF. On est là pour essayer d'apporter la voix de la raison, la voix de la communication dans laquelle on ne se fait pas violence entre nous. On s'écoute et on veut avoir des définitions claires sur lesquels on peut travailler ensemble. Donc, si l'autre camp serait prêt à de telles, une telle attitude dans la militance, mais c'est pas ce qu'on observe. On observe qu'on se fait traiter de méchante, qu'on se fait gaslighter sur le fait qu'on dit que, mais ce que vous proposez, votre projet de société, le camp adverse, va vraiment amener des changements. Juste un exemple. Là, on est au.
Non, excusez, je suis vraiment désolée, mais c'est tout le temps. Valérie, je suis vraiment désolée, oui. Madame Pelletier, mais c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie d'être venue nous parler, même si moi, j'étais sous l'impression que vous étiez à la manif d'hier, donc j'ai été mal renseignée. Mais une discussion à suivre. Valérie Pelletier, membre de cet organisme pour les droits des femmes du Québec. Merci beaucoup, Madame Pelletier.
Merci.
C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation, Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous d'avoir été là. Demain, jeudi, on sera de retour. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.
Cube Radio.